morning edition from NPR News.
Let's see the sunbeam the house.
France Inter, le 18.
Et direction Bruxelles, dans un tout petit instant, nous irons rejoindre le député Arnaud Danjean, député PPE. Nous parlerons évidemment du lancement de cette présidence française cannibalisée par la campagne électorale française. Mais aussi nous parlerons de défense, d'autonomie stratégique, de souveraineté avec Angélique Bouin qui nous attend aussi à ses côtés. Le bruit du monde, tiens, justement ce soir est en Ukraine qui entend voler les noms d'oiseaux entre Américains et Russes, qui attend la réunion diplomatique à venir. Mais dans le Donbass, on craint réellement une intervention russe. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legenie a trouvé un piquet de grève au nord de la Serbie. L'Écosse, qui pourrait devenir un site de lancement de satellites. Et puis des viticulteurs espagnols qui cherchent à échapper au réchauffement climatique. À 18h50, c'est le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec Memory Box. Retour sur une enfance libanaise depuis un exil au Québec. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four qui a trouvé le spectacle des députés anglais beaucoup plus réjouissant que les parlementaires européens. Il nous dira pourquoi. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Arnaud Danjean.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputé du groupe PPE, Parti Populaire Européen, avec nous en direct de Strasbourg. Vous avez écouté le discours d'Emmanuel Macron, posé d'ailleurs également une question, fait une intervention en tout cas. Angélique Bouin, correspondante de France Inter à Bruxelles, est à vos côtés. Je vous salue aussi. Angélique,
bonsoir.
On va essayer de sortir des polémiques franco-françaises, si vous le voulez bien, et de cette campagne présidentielle donc qui a transpiré pendant toute la séquence, mais enfin quand même, parce que c'est l'éléphant dans la pièce. Est-ce que vous regrettez, Arnaud Danjean, que les enjeux français aient autant transpiré? Est-ce que vous dites que c'était de toute façon inévitable? Vous y avez participé, vous aussi, d'ailleurs, dans votre intervention. Donc qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis?
Alors d'abord, je vous corrige sur mon intervention. Je n'ai pas évoqué d'enjeux franco-français dans mon intervention. J'ai soulevé trois contradictions des discours du président Macron de façon respectueuse du débat. Il ne me semble pas avoir été outrancier dans mes remarques.
Vous étiez outrancier, mais vous avez parlé du Conseil de défense en France.
Quand on donne des leçons à l'Europe, il faut savoir aussi ce qu'on fait chez soi.
Je me suis simplement
étonné que la façon dont on gère la crise sanitaire en France, ça soit à travers l'état d'urgence et à travers un organe qui s'appelle le Conseil de défense et de sécurité nationale.
Ça n'a rien à voir avec
les polémiques que certains collègues d'autres partis ont essayé
d'agiter. Donc du coup, vous regrettez que les enjeux français aient autant transpiré ou pas?
Écoutez, c'était inévitable. C'est pas aux députés qu'il faut faire le reproche. Le premier reproche, c'est quand même la présidence française qui a décidé de maintenir ce calendrier qu'on connaît depuis longtemps et qui fait qu'il y a une collision tout à fait inédite entre l'élection majeure en France et la présidence française de l'Union européenne. C'est ainsi. Moi, je le regrette. J'aurais aimé qu'on ait un autre calendrier. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce que je regrette effectivement, c'est un certain nombre d'interventions qui, à mon avis, sur la forme comme sur le fond, n'étaient pas au niveau. Voilà. C'est pas interdit de parler de débats nationaux dans cette enceinte. Et d'ailleurs, il y a quand même un regard franco-français dans les critiques qui sont adressées. Parce que il y a un certain nombre de commentateurs, pas votre antenne, mais un certain nombre de commentateurs qui ne s'intéressent au Parlement européen que parce que Monsieur Macron y est venu. Et ces mêmes gens nous disent, c'était un spectacle indigne car trop franco-français. J'invite ces mêmes commentateurs à venir lors d'autres interventions de personnalités étrangères et ils verront que les débats sont aussi très nationalisé. À titre personnel, je le regrette. Ça fait 12 ans que je suis dans cet hémicycle et moi j'essaye de faire la part des choses, mais je pense que c'était malheureusement assez inévitable.
Est-ce qu'on dit quand même que, parce que c'est important quand même une présidence quelle qu'elle soit, donc française là en l'occurrence, mais du coup est-ce qu'on dit que c'est une entrée ratée en fait, un démarrage raté, ou est-ce qu'on va vraiment pouvoir passer à autre chose?
D'abord, c'est un exercice de style. Il faut pas se raconter d'histoire. Les vrais enjeux, ça se joue pas là. Là, c'était un exercice public de présentation. C'était un discours. Le président de la République l'a dit lui-même. C'est mot contre mot, finalement. Alors, encore une fois, je regrette que sur la forme en particulier, il y ait eu des interventions qui ne soient pas vraiment au niveau. Mais ça, je suis libre à chacun de s'exprimer comme il l'entend. Les vrais enjeux sont posés. Ils l'étaient d'ailleurs avant ce discours. Ils le sont pour les 6 mois qui viennent. Et donc, ça va maintenant se jouer retrouver dans des réunions entre le Conseil européen, les eurodéputés, la Commission européenne. Voilà, il y a toute une technicité derrière qui fait que cette grand-messe d'aujourd'hui, si vous voulez, je ne vais pas dire qu'elle était anecdotique, elle était importante, ça participe du débat démocratique, mais enfin, tout ne va pas se juger à l'aune des prestations d'aujourd'hui.
Et heureusement, pour tout le monde d'ailleurs, j'imagine, les enjeux sont posés, vous l'avez dit, on va y venir dans une seconde. Juste en un mot, Angélique, parce qu'on vous a entendu en parler tout à l'heure un peu à 18h, qu'est-ce que ça a généré chez les parlementaires quand même, ce démarrage un peu baroque, on va dire?
Alors déjà, il faut quand même rappeler une chose qui est importante, hein, c'est qu'à chaque début de présidence tournante de l'Union européenne, le dirigeant du pays vient se confronter aux quelques 700 eurodéputés et les enjeux nationaux s'y invitent à peu près tout le temps. Alors c'est vrai que là, il y avait 48 interventions, une quinzaine d'eurodéputés français. Et en fait, ce qui a effectivement heurté, qui a rendu un peu les choses électriques avec une sorte d'incident de séance, c'est quand Monsieur Yannick Jadot a pris la parole au nom des Verts, il a eu la parole à la place de Philippe Lambert, ce qui n'est pas très courant, même si c'est possible. Et puis, je dirais qu'au lieu de s'adresser à la salle, comme c'est généralement prévu, il s'est retourné vers le président de la République. Il a dépassé son temps de parole. Et donc, il y a eu une intervention, en fait. Il a été dénoncé, un manquement au règlement, par la présidente du groupe sociodémocrate, la présidente s'en est mêlée. C'est vrai que ça a donné une tonalité très franco-française. Mais attention, c'est assez courant. C'est vrai que c'est très commenté depuis le début de l'après-midi dans les couloirs du Parlement. Et puis, pas uniquement par les journalistes français, hein. Je peux vous dire que chez nos confrères européens. Alors, quand on parle de la France, il faut quand même le rappeler, Fabienne, il y a toujours... ça prend toujours des fortes proportions, Monsieur Danjean ne va pas me contredire. On parle souvent de cette arrogance française, donc c'est vrai que même sur les chaînes de télé étrangères, c'est très, très commenté. Alors, si vous me donnez encore un petit mot, c'est vrai qu'il y a eu des échanges impulsifs. Le président de la République s'y est prêté en répondant sur le même ton.
Alors, exercice favori par ailleurs, hein. On a pu le voir à de nombreuses occasions. Arnaud Danjean, il y a quand même des enjeux, la dernière. Vous le disiez, vous, votre jardin, si je puis dire, c'est la défense et la stratégie. Ce que j'ai trouvé moins intéressant en termes de calendrier, c'est que pendant qu'Emmanuel Macron parlait, Russes et Américains s'envoyaient des noms d'oiseaux avant leur rendez-vous sur la crise ukrainienne. Et là-dessus, l'Europe n'a même pas un strapontin. La réponse d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a annoncé, en tout cas aujourd'hui, dans son discours introductif, c'est ce fameux nouvel ordre de sécurité avec l'OTAN face à la Russie, accompagné, a-t-il dit, d'un dialogue franc avec Moscou. Est-ce que ça vous semble être une bonne stratégie pour l'Europe ?
Et vous savez, comme souvent d'ailleurs avec le président de la République française, les idées, les intuitions ne sont pas forcément mauvaises, surtout en politique internationale, mais le problème c'est que c'est un peu déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que le dialogue avec la Russie, lui-même d'ailleurs, et il l'a rappelé aujourd'hui, l'a initié d'une certaine façon. Il a invité Vladimir Poutine à Versailles, puis à Brégançon, d'ailleurs souvent sans trop de concertation avec nos partenaires européens qui le lui reprochent. Ça n'a rien donné. Clairement, on voit bien que la Russie aujourd'hui ne veut pas de l'Union européenne dans l'équation sur la sécurité en Europe, ce qui est extrêmement choquant d'ailleurs. Donc le président de la République, de ce point de vue-là, a plutôt raison de vouloir insister sur le fait qu'il faut dialoguer avec la Russie et qu'il faut que l'Europe y ait sa place. Maintenant, ça va être très compliqué parce que la voie européenne là-dessus n'est pas unique. Il y a beaucoup de nuances, parfois même plus que des nuances, et des intérêts qui ne sont pas toujours convergents. Donc je pense que ça va être quand même très compliqué à mettre en œuvre. Aujourd'hui, ce sont Russes et Américains qui se parlent. C'est effectivement très choquant que Russes et Américains parlent d'architecture de sécurité en Europe sans que les Européens soient à table. Forcer la porte de ce dialogue va être très compliqué. Les Américains y semblent prêts, les Russes beaucoup moins. Donc ça va être une œuvre de longue haleine.
Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup? Si imaginons que cet ordre existe, qu'il puisse se mettre en place et que demain la Russie envahisse l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça se traduit? Qu'est-ce qui se passe chez nous pour ça?
D'abord, si la Russie envahissait l'Ukraine, hypothèse que je ne crois pas la plus probable, même si des options militaires sont sans doute sur la table, mais est-ce qu'on pourra parler d'invasion? J'en sais rien.
Alors, vous avez raison sur le terme. Disons, si elle mettait les pieds de manière extrêmement concrète et visible, un peu comme ça a pu être le cas en Crimée par exemple, ou des points comme ça, nous qu'est-ce qu'on fait du coup?
Écoutez, nous, je pense que d'ailleurs, on se retranchera, mais de façon tout à fait légitime, derrière la Charte des Nations Unies, qui condamne évidemment une agression armée contre un pays souverain et indépendant. Et de ce point de vue-là, ça expose dans la foulée à des sanctions, à des réactions, le cas échéant même, qui peuvent être militaires également, mais je ne crois pas qu'on en soit là. En tout cas, il y a toute une gamme de réactions qui sont possibles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on mesure assez mal, à vrai dire, les intentions des différents acteurs, puisque nous ne sommes pas à la table, et que, quand j'entends aussi bien le haut représentant de l'Union européenne pour la sécurité, qu'on a auditionné avant-hier ici même, ou les présidents qui s'expriment comme le président de la République aujourd'hui, on a l'impression qu'on a tout en seconde main, si vous voulez, en termes d'informations. Donc, je ne suis pas certain qu'on soit les mieux placés pour, prévoir une réaction ou dessiner dès à présent une réaction possible ou toutes les options de réaction alors qu'on n'a pas toutes les cartes en main.
Angélique, je vous écoute.
Est-ce que ça signifie que cette commission géopolitique qu'on nous avait promis lors de l'arrivée d'Ursula von der Leyen, dans cette alliance aussi avec Emmanuel Macron, c'est un véritable échec aujourd'hui?
D'abord, si vous me permettez, moi je n'y ai jamais cru. C'est un slogan, c'est une formule, mais je pense que la Commission européenne, parce que là on parlait pour le coup de la Commission européenne, je pense que la Commission européenne, elle est taillée pour tout sauf pour être géopolitique. Alors on peut le regretter, on pourrait espérer qu'elle le soit un peu plus, parce qu'elle a à sa disposition des instruments qui ont une incidence géopolitique et qui sont des leviers géopolitiques potentiels. La politique commerciale, un certain nombre de politiques, d'instruments financiers ou autres. Mais la vérité, c'est que depuis 60 ans, la Commission européenne, elle a un ADN qui n'est pas du tout celui-là. Donc on ne change pas du jour au lendemain, et il ne suffit pas de proclamer qu'on va devenir géopolitique pour le devenir. J'ajoute, parce que c'est ça finalement le fond du problème en Europe, et c'est quelque chose, je ne veux pas dire d'insoluble, mais c'est quelque chose une difficulté sur laquelle on bute en permanence. En particulier nous, Français, quels que soient les horizons politiques, on a toujours une ambition d'Europe puissance, comme on dit. Le problème, c'est que les Européens ont des perceptions géostratégiques très différenciées. Mmh. Et c'est logique. Vous ne pouvez pas exactement avoir la même perception géopolitique selon que vous soyez à Tallinn ou à Lisbonne. Mmh. Et donc, on essaye de faire les choses en commun, on essaye de dégager des positions communes. Sur beaucoup de sujets, on y parvient. Mais en termes de priorité, il y a toujours des difficultés à établir une hiérarchie, si vous voulez.
Ça veut dire qu'on a beaucoup dit, y compris d'ailleurs pendant ces 6 mois à venir, qu'on allait pouvoir faire des pas de géant, notamment sur la défense européenne. On sent, vous écoutant, que vous n'y croyez guère, en fait.
Ah mais j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas. Non, d'abord, je vais vous dire une chose très très franche, c'est que autant je crois à la nécessité de construire une défense, une politique de défense européenne plus cohérente, plus unifiée, plus robuste et plus indépendante, autant je pense que les grandes proclamations, les grandes incantations ne font pas progresser cette cause et que les pas de géant de toute façon ne sont pas possibles dans ce domaine-là. Mmh. Et donc il faut construire quelque chose très méticuleusement, c'est souvent très frustrant parce que la visibilité pas au rendez-vous, singulièrement pour nos citoyens, mais c'est malheureusement comme ça que ça peut marcher. Et d'ailleurs, toutes les initiatives européennes qui ont un peu prospéré sont des initiatives au long cours, dans lesquels on prend son temps, et si je voulais, j'allais dire, dans lesquels aucun pays ne tire la couverture à lui. Et c'est un défaut bien français. Mmh. On est tellement demandeur sur cette Europe de la défense, on est tellement à la baguette sur cette Europe de la défense, qu'on pense que c'est une évidence pour nos 26 autres partenaires, qui vont tous penser comme nous par la magie de notre verbe, et on revendique des grands succès là où les autres sont beaucoup plus prudents que nous. Et généralement, on s'aliène un petit peu les autres en voulant aller trop vite. Donc, moi, je demande de la patience. Pas d'effet d'annonce, mais du travail concret, plus méticuleux.
Et pourtant, Angélique, c'est vers vous que je me tourne sur ce sujet-là, mais sur d'autres aussi d'ailleurs, mais sur celui-là aussi, ce qui était d'ailleurs assez inédit. On a plutôt eu le sentiment ces dernières semaines qu'il y avait eu un alignement de planètes qui pouvait être favorable.
Sur les questions de défense, en tout cas, il y a évidemment une idée qui progresse et on sent quand même il y a de moins en moins d'États membres qui sont allergiques, en tout cas, à créer des synergies, à créer plus d'interopérabilité dans les matériaux, à ne plus accepter, par exemple, qu'il y ait 17 chars différents dans l'Union européenne. Et puis on a vu dernièrement les Belges acheter des avions américains. On sent quand même que effectivement le contexte géopolitique, avec le désintérêt des Américains, on a bien vu en Afghanistan quand les Européens ne savaient pas comment protéger et rapatrier leurs ressortissants. On a vu l'alliance américaine AUKUS, on a les bruits de bottes russes en Ukraine. Tout ça fait quand même évoluer le sujet et effectivement ça va dans le sens d'une meilleure collaboration pour une sécurité. Mais effectivement, on annonce cette boussole stratégique, ce livre blanc européen sur l'armée, sur la défense pour le mois prochain. On attend de voir très concrètement ce qui peut en sortir.
Je vous ai entendu, je vous ai vu, je vous ai lu en fait sur Twitter tiquer Monsieur Danjean, notamment en réaction au président de la République lorsqu'il abordait notamment l'état de droit. Et si je vous pose la question, c'est parce que votre président du PPE l'a fait aussi dans sa première intervention. Qu'est-ce qui vous a gêné ?
Non, ce qui m'a gêné, c'est pas tant la référence à l'état de droit, parce que là-dessus, il y a quand même un très large consensus. Non, ce qui m'a beaucoup gêné, mais qui me gêne depuis maintenant 4 ans avec Monsieur Macron, et c'est quelque chose de très précis et sur lequel j'insiste, parce que sa réponse a été empreinte de mauvaise foi, c'est, je vous renvoie à son discours au Congrès, à Versailles, devant députés et sénateurs en 2018, dans lesquels il a fait comme fondateur le fameux clivage européen, selon lui, essentiel, qui serait entre d'un côté des forces populistes et de l'autre côté des progressistes. Et moi, je pense que c'est un clivage qui est artificiel, qui ne correspond pas à l'intégralité des nuances qui existent dans le débat politique européen, et qui ne correspond absolument pas aux catégories politiques actives. D'ailleurs, ici ou même au Parlement, il y a un groupe populiste, il y a un groupe progressiste, mais au milieu, il y a un groupe qui reste encore le plus important, qui est celui auquel j'appartiens, de centre-droit, chrétien-démocrate, qui n'est ni populiste ni progressiste au sens strict du terme. Et je trouve que la réduction, si vous voulez, de la complexité des enjeux européen à ce clivage très binaire est totalement artificiel et de mon point de vue c'est mortifère. C'est là-dessus que j'ai beaucoup attaqué le président de la République, que mon président de groupe l'a fait aussi. La réponse que nous a donnée M. Macron est pas satisfaisante parce qu'avec beaucoup de mauvaise foi, il dit non, mais c'est pas exactement ce que j'ai dit. Vous méprenez. Moi je fais la différence entre patriotisme et nationalisme, mais moi aussi je fais la différence entre patriotisme et nationalisme. Mais je reviens à son fondement originel qu'il a martelé pendant la campagne européenne de 2019. C'était bien d'un côté les populistes, de l'autre les progressistes. C'est une assertion que je réfute pour l'Europe.
Allez, tous ces enjeux, en tout cas, j'allais dire, on a 6 mois pour en parler. On ne sait pas très bien si on a 6 mois pour en parler. Écoutez, on va prendre chaque jour l'un après l'autre. Et je vous remercie beaucoup, Arnaud Danjean. Merci à vous aussi, Angélique Bouin, avec nous depuis Strasbourg.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde et une démonstration par l'exemple de ce qu'est une guerre aux portes de l'Europe, l'absence aussi de l'Europe dans cette confrontation. On va parler d'Ukraine, bien sûr, de l'inquiétude des habitants du Donbass pour les semaines à venir. Et pour aller jusqu'à 19h, la bande du mercredi, sous les radars, Sébastien Logeny, très européen ce soir.
Nous irons en effet en Grande-Bretagne qui rêve de faire décoller cette année des fusées spatiales depuis l'archipel des Shetland en Écosse.
Le cinéma en VO et Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir. Aujourd'hui, les années de guerre civile au Liban à travers les souvenirs d'un couple de plasticiens réalisateurs dans Memory Box, film solaire à la mise en scène, ultra créative.
Le monde d'après, Jean-Marc Faux, bonsoir.
Bonsoir à tous, j'ai adoré ce moment aujourd'hui devant le Parlement. Mais je ne parle pas d'Emmanuel Macron devant les députés européens, non, je parle de Boris Johnson devant les députés britanniques. Ça, c'était un vrai moment de démocratie.
Alors c'est sûr, vous avez changé de Parlement, vous, en cours d'après-midi. A tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue avec les Pogues, Dirty Old Town. Ça a 37 ans, dites-moi cette chose.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Smoky wind,
dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old.
Le bruit du monde ce soir est donc en Ukraine, et la voilà, l'illustration d'une guerre aux portes de l'Europe dont nous parlions il y a un instant et qui met le sujet de l'Europe de la défense dans un exemple concret. Pour l'heure, le face-à-face, il est russo-américain, à deux jours d'un rendez-vous diplomatique important. Anthony Blinken, secrétaire d'État, vient de lancer un appel depuis Kiev à Vladimir Poutine. Il lui dit « il faut choisir la voie de la paix ». La Russie, vous le savez, a massé plusieurs dizaines de milliers d'hommes près des frontières ukrainiennes. Elle vient d'évacuer la plupart de ses diplomates et les Ukrainiens de la région du Donbass redoutent les prochaines semaines. Le reste, c'est Eric Biagala qui raconte.
Le Donbass, c'est de l'autre côté du pays, dans le sud-est de l'Ukraine. Il faut 6h30 de train pour s'y rendre depuis Kiev. Seul relief visible en arrivant, les terrils. Région industrielle et minière de l'Ukraine, la population est ici majoritairement russophone. C'est là qu'en 2014, des séparatistes russophiles, conduits par des Russes, prennent par la force plusieurs grandes villes et notamment les capitales provinciales, Donetsk et Luhansk. Dans l'agglomération de Slaviansk, par exemple, une escouade armée de séparatistes prend position dans l'école numéro 1 en avril 2014. Chassés en juillet de la même année, les pro-russes ont laissé l'établissement quasi détruit. Façades et toitures grêlées par la mitraille, livres de classe et mobilier réduits en bois de chauffage. Au souvenir de cette période, le principal de l'école, Sergei Borisenko, a la larme à l'œil.
Je travaille dans cette école comme directeur depuis 1999. Et presque tout ce qu'il y avait ici, je l'avais construit de mes propres mains, ou j'y avais contribué. Et ça a été très dur de voir tout ça détruit.
Sergueï est l'une des 7 seules personnes du village à être restée durant les 4 mois de l'occupation de son école. Il a dû fréquenter ces séparatistes.
Il y avait toutes sortes de gens chez ces rebelles. Il y avait des Tchétchènes, il y avait aussi des étrangers complets qui ne parlaient ni russe ni ukrainien. Je ne sais pas d'où ils venaient. Et bien sûr, il y avait aussi des gens du coin, des bâtards qui ont soutenu ce régime. Le 7 juillet, quand j'ai pu revenir dans mon bureau, ici, au premier étage, j'ai trouvé la liste des personnes à qui ils avaient distribué des armes. Il y avait des gens de Donetsk, de Orlivka et d'Artemisk, des gens de la région.
Rebelles et pro-russes ont évacué le faubourg, mais ailleurs, le sentiment pro-Russie est encore très présent. Par exemple, à Drushkivka, grande ville 25 km plus au sud. Anatoly Vodolaski, 71 ans, a tenté de résister aux tentatives de l'occupation de sa ville par les séparatistes pro-russes. Arrêté et torturé par eux, il n'est qu'à moitié rassuré par la reprise de l'agglomération par l'armée ukrainienne.
Hier, la police a encore arrêté quelqu'un qui informait les Russes.
Face aux concentrations de troupes à la frontière, Anatoly veut espérer qu'il ne s'agit pas de la préparation d'une nouvelle offensive russe.
Je n'y crois pas, je veux rester optimiste et j'ai confiance en notre armée. Les envahisseurs, on les enterrera.
Il y a l'armée russe, bien sûr, qui aide les séparatistes d'Ukraine depuis 2014, mais il y a aussi les Russes d'ici, que certains considèrent comme une véritable cinquième colonne. Evan Chapovalov, 66 ans, retraité de l'industrie, et qui essaie de monter un petit musée de l'occupation à Drushkivka, explique.
Le Donbass, vous savez, a été russifié dans les années 60. On a encouragé la culture et la langue russe ici. C'est pour ça qu'ils sont pro-russes. 70% de la population du Donbass est d'origine russe. On peut dire qu'actuellement, il y a la moitié des habitants de la ville qui sont pro-Russie. Mais depuis 2014, tous ces pro-russes se font discrets. Ils restent chez eux.
Aujourd'hui, environ la moitié des deux provinces du Donbass, dont les deux capitales provinciales, Donetsk et Luhansk, sont occupées par des forces séparatistes armées par la Russie. Le Donbass est donc divisé par une ligne de front et les familles aussi sont divisées, comme celle de Pavlo Kirilenko, le gouverneur ukrainien de l'administration civilo-militaire de la province de Donetsk, actuellement en exil à Kramatorsk. Lui non plus n'y échappe pas.
Ma famille est complètement divisée, c'est l'une des spécificités de ce conflit. Mes parents vivent dans des zones temporairement occupées. Non seulement mon cousin, mais aussi mon propre frère sont également dans les territoires occupés. Et du fait des circonstances, et surtout de mon statut dans l'armée ukrainienne, nous n'avons pas pu nous voir depuis 2014.
Ancien officier supérieur de la prévôté ukrainienne, le gouverneur peut encore joindre ses parents au téléphone, mais à peine.
Il y a des raisons familiales à tout ça. Au début, je leur ai suggéré de venir sur le territoire de l'Ukraine. Mais ils sont nés dans cette ville, à Donetsk. Ce sont des gens retraités qui vivent sur leur pension. Et ils sont en relation avec l'administration d'occupation. Ce sont des adultes. Ils ont leur propre vision des choses. C'est pourquoi je ne parle plus de ça avec eux.
Le passage pour les civils du territoire occupé vers le reste de l'Ukraine est de plus en plus restreint par les autorités de Donetsk. Et des passeports russes sont largement distribués à la population, comme si la Russie préparait une annexion en bonne et due forme du Donbass ukrainien.
Éric Biegala pour le reportage dans le Donbass. Merci beaucoup, vraiment. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité européenne passée sous les radars ce soir. Et c'est Sébastien Legénie. Et nous sommes d'abord, Sébastien, sur un piquet de grève au nord de la Serbie, dans des usines où le droit du travail est très loin d'être respecté.
Oui, c'était il y a 2 mois des grèves inédites dans ce petit pays d'Europe de l'Est. 500 salariés sont sortis de leur usine pour se plaindre de leurs conditions de travail. Détail important, ce ne sont pas des ouvriers serbes qui se rebellent, mais des Vietnamiens, et leurs entreprises ne sont pas serbes, mais chinoises. La Chine qui, ces dernières années, a beaucoup misé sur les investissements dans les Balkans, sauf que les patrons chinois en Serbie semblent bien peu regardants sur les conditions de vie de leurs employés, entassés dans des dortoirs de fortune, sans chauffage, manquant de nourriture et avec le passeport confisqué. Ce travailleur vietnamien raconte à nos confrères de l'AFP qu'il vit ici comme en prison. C'est un peu mieux qu'en prison car on peut marcher, mais ce n'est pas très différent. Si on sort 1 ou 2 jours, il nous licencie. Les conditions de vie sont très mauvaises, pas assez d'eau, d'électricité. Je ne peux pas en dire plus, j'ai peur des conséquences. Voilà, presque du travail forcé au cœur de l'Europe, bien loin des standards européens. Des accusations balayées par Belgrade qui y voit un complot anti-chinois. Belgrade qui fait en réalité le grand écart entre Bruxelles et Pékin. D'un côté, la Serbie souhaite intégrer les nouvelles routes de la soie et de l'autre, elle est candidate à l'intégration européenne. Pas sûr qu'elle gagne sur tous les tableaux.
Direction l'Écosse qui se voit bien devenir le Cap Canaveral européen.
Oui, c'est une information qui reste encore mal connue. Le Royaume-Uni est un sérieux candidat dans la course à l'espace. C'est l'une des conséquences du Brexit. Londres envisage de lancer des satellites depuis son territoire du jamais vu. Plus précisément, les Britanniques prévoient de tirer leur propre fusée dès cette année 2022 depuis une île des Shetland en Écosse. On entend là un film promotionnel de la société Skyrora basée à Édimbourg et qui depuis des années développe son propre lanceur spatial en toute discrétion, une fusée de 23 mètres de haut. Skyrora qui vient de signer avec un milliardaire danois pour acquérir le port spatial de la toute petite île de Hunst. C'est de là dans les Shetland donc que seraient lancées les premières fusées. Hunst, l'endroit le plus au nord de la Grande-Bretagne, plus proche de la Norvège que d'Édimbourg, plus au nord que Moscou. Hunst qui compte bien plus de moutons que d'habitants et qui toutefois présente un inconvénient, sa météo, 13 degrés en moyenne et surtout des rafales de vent quasi continues. On est très loin de la Floride et de son climat subtropical.
Allez, revenons donc à des températures plus clémentes en Espagne où des viticulteurs cherchent à s'adapter au réchauffement climatique.
Oui, en 60 ans, la température moyenne a augmenté de 1,3 degrés en Espagne et les conséquences sur le vignoble le plus grand au monde par ailleurs sont flagrantes. Ces dernières années, les vendanges espagnoles ont dû être avancées de 10 à 15 jours car sinon la température excessive donnerait aux raisins un degré d'alcool trop élevé, pas assez d'acidité, bref, un mûrissement trop rapide. Face à cette situation qui ne peut que s'aggraver, plusieurs viticulteurs espagnols se sont désormais installés sur les contreforts des Pyrénées à 1200 mètres d'altitude. Le patron des célèbres vins Torres explique ainsi que tous les 100 mètres d'altitude, la température moyenne diminue de près de 1 degré, par conséquent quand à 1000 mètres, nous avons presque 10 degrés de moins par rapport à la plaine, ce qui fait qu'en ce moment, nous avons des vignes encore blanches, dit-il, avec une très bonne acidité et qui nous permettent d'équilibrer les vins. Voilà les viticulteurs espagnols qui ne sont pas les seuls à être confrontés à ce casse-tête du réchauffement des vignobles. La France, l'Italie, l'Australie, la Californie, même la Chine cherchent à s'adapter. Et les consommateurs, comme nous, vont sans doute devoir s'habituer à boire des vins plus ensoleillés, comme on dit en clair, plus alcoolisés.
Ça veut dire qu'ils tapent, en
fait. Qui tape, voilà.
Merci beaucoup, Sébastien qui cogne. À demain. Vous partez avec Courtney Barnett, qui va nous rendre optimiste en faisant des listes. Write a list of things to look forward to. Sur France Inter, write a list of things to look forward to. C'est sur France Inter, le cinéma, ben c'est aujourd'hui et c'est Corinne Pelletier du coup.
France Inter, un jour dans le monde.
Bonjour.
Bonjour, j'ai un colis pour Maya Sanders.
Oui, c'est ma mère.
Lisa, votre
elle, je ne reconnais pas ma mère.
Le cinéma en VO, Corinne, nous emmène aujourd'hui au Liban avec deux réalisateurs exilés au Québec qui racontent et partagent leurs souvenirs de jeunesse pendant la guerre civile. Ça donne un très beau film qui s'appelle Memory Box, signé donc Johanna Hadjitoma et Ralil Jorej. Ah ben merci de m'avoir laissé les noms. Et puis il y a une sorte de mise en abîme à l'intérieur, puisque l'histoire c'est celle d'une jeune fille née au Québec, d'origine libanaise, qui va découvrir ses racines à travers les archives oubliées de sa mère.
Voilà, tout démarre avec un énorme paquet arrivé de Beyrouth à la veille de Noël, qui va provoquer une crise familiale sans précédent, car depuis leur exil au Québec dans les années 80, la mère et la grand-mère d'Alex, la jeune héroïne du film, n'ont jamais beaucoup évoqué leurs racines ou parlé de leur passé. Une recette de cuisine en passant, des consignes sur l'eau qu'il ne faut pas gaspiller, et c'est à peu près tout. Alors évidemment, la perspective d'obtenir des réponses à travers cette boîte mystérieuse, remplie de cahiers, de photos, d'objets qui ont appartenu à sa mère quand elle était jeune, eh bien, vont éveiller la curiosité de la jeune Alex et nous plonger, nous, spectateurs, dans le Liban des années 80, car tout ou presque ici a existé. L'histoire du film, c'est quasiment celle de Johanna Hadjitoma, qui elle aussi, quand elle était jeune, a échangé tous les jours, de 13 à 18 ans, des lettres, des photos, des cassettes avec sa meilleure amie, l'une à Beyrouth, l'autre à Paris, pour se raconter le quotidien pendant la guerre civile, la peur des bombes, mais surtout cette envie irrépressible de vivre, d'être amoureux, d'aller au cinéma, de danser en écoutant Blondie. Beaucoup de vitalité ici, c'est la grande force du film.
Oui, c'est ce qui m'a le plus frappé en relisant ces cahiers et ces lettres. Il n'y avait pas de présence du trauma, malgré une situation dramatique parfois, mais c'est une folle envie de vivre, vraiment. Et ça, c'est un angle qui n'est pas tellement montré dans les guerres civiles. C'est vrai qu'on continue à aller à l'école, qu'on continue à être des enfants, des parents, d'avoir des relations avec les autres. Et on a eu envie de raconter ça avec tous ces détails qu'on avait trouvés. Et c'est peut-être aussi parce qu'il y avait beaucoup d'empêchements, que l'intensité était plus grande dans nos vies. Chaque chose devenait un événement. Aller au cinéma, c'est toute une aventure. Donc, dans la façon dont nous-mêmes nous avons traité l'image, il fallait qu'on retrouve cette jubilation, qu'on retrouve cette sensualité.
Et Corinne, ce travail sur la mémoire, c'est pas nouveau pour eux, c'est même un thème qu'ils ont déjà beaucoup creusé, entre autres à travers leurs installations, cette question de savoir comment on transmet et pourquoi faire.
Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, Johanna Adjetoma et Khalil Jorej sont aussi des artistes plasticiens à la renommée mondiale. Ils ont exposé à Londres, à New York, au MoMA, à la Tate Moderne, gagné aussi le prix Marcel Duchamp avec une installation qui interrogeait déjà cette question de la mémoire, qui revient encore et toujours au fil des épreuves que subit le Liban, la crise économique, politique, l'explosion du port aussi de Beyrouth en 2020, qui donne évidemment une dimension toute particulière à ce film Memory Box, tourné lui avant ces événements.
C'est très étrange de voir à quel point l'explosion a permis de créer un autre écho, comme encore plus d'actualité.
On a tourné le film en 2019, au moment où il y a eu un effondrement politique, économique au Liban sans précédent. Et tout d'un coup, des phrases tirées de mes cahiers qu'on entend, ou des cassettes, avaient un écho qui était troublant et très attristant par rapport à la situation. Quand on parle de la dévaluation de la livre ou des leaders politiques ou même de l'électricité ou de l'instabilité, de la tristesse qui était très forte quand même dans ces années-là aussi, malgré l'intensité, il fallait aussi montrer que l'élément humain, l'amitié, était ce qui nous faisait tenir aujourd'hui. On ne peut pas être totalement désespéré. Ce luxe-là, dans des pays comme ça, on ne l'a pas. Il faut qu'on puisse se dire que ce sont des cycles et qu'après ces catastrophes, il y aura de la lumière. On n'est pas encore là, mais on l'espère.
Voilà, c'est un film très beau, très émouvant, vraiment tourné vers la vie, avec une mise en scène ultra créative. Ça s'appelle Memory Box.
Et c'est bien noté, ça sort ce mercredi. Corinne Pellissier, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, vous avez donc zappé le Parlement européen, vous, cet après-midi. Boris Johnson vient de vivre une nouvelle journée houleuse devant son Parlement. Le Premier ministre britannique est désormais très menacé, confronté à une véritable fronde dans son propre camp. Et il y a pour vous quelque chose de rassurant dans cette rébellion, quelque chose d'authentiquement démocratique. Et c'est votre monde d'après.
Oui, la Chambre des communes a vécu tout à l'heure un vrai moment de parlementarisme. Vous savez, l'un de ces moments de démocratie qui font la grandeur du Royaume-Uni. Et c'était, soit dit en passant, autrement plus vivifiant que ce débat avec Emmanuel Macron au même moment au Parlement européen, échange qui a tourné à la campagne franco-française, vous en parliez tout à l'heure. Le sujet central à l'Assemblée britannique était assez simple. Boris Johnson est un menteur, à un point tel qu'il ferait passer Pinocchio pour un tout petit joueur. Et en fait, on le sait depuis longtemps, dès son premier boulot au journal The Times, il avait été viré pour cette raison. Mais cette fois, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, avec ses révélations en série sur les fêtes alcoolisées organisées à plusieurs reprises à sa résidence depuis le début de la pandémie. Et le Premier ministre britannique a changé trois fois de version. D'abord, c'était « je suis pas au courant », puis c'est devenu « il s'agissait de réunions de travail ». Et maintenant, personne ne m'avait dit que ces fêtes bafouaient les règles. La bonne blague, ce sont les règles qu'il a lui-même édictées pour imposer des restrictions à sa propre population. Il y a d'ailleurs dans cet épisode quelque chose de révélateur sur ce qu'est un dirigeant populiste. Il accède au pouvoir par un côté franc-parler, où il prétend incarner le peuple face à des élites corrompues et condescendantes. Mais une fois au pouvoir, il s'affranchit des règles et se comporte plus que tout autre comme le maître d'une élite qui méprise le peuple.
Et donc les élus britanniques se rebiffent.
Oui, les attaques sont venues d'abord du leader de l'opposition travailliste Keir Starmer, mais ça c'est convenu. Beaucoup plus intéressant, elles sont venues du propre camp du Premier ministre, les conservateurs. La séance a commencé par une défection. Un jeune député, Christian Wakeford, a changé de camp, rejoignant les travaillistes. Puis un ancien ministre, figure du parti conservateur, David Davis, a tiré à boulet rouge sur Boris Johnson. « In the name of God, go ! Au nom de Dieu, partez !» Imaginez la scène, un ténor de la majorité défie ouvertement, par surprise, en plein parlement, son propre leader et l'appelle à démissionner parce que trop de mensonges, ça suffit. Le Parti conservateur britannique semble en train de se réveiller, peut-être de faire ce que le Parti républicain américain n'a pas eu le courage et le bon sens de faire face à Trump, virer Pinocchio pour sauver la démocratie. Bon, si les conservateurs se réveillent, c'est par inquiétude électorale. Ils ont maintenant 10 points de retard sur les travaillistes et des élections locales pointent à l'horizon. Mais ça n'en est pas moins un réflexe démocratique. Pouvoir faire sauter son propre leader quand il dépasse les bornes. Et ça, c'est sain. Au Royaume-Uni, par le passé, Margaret Thatcher ou Theresa May en ont déjà fait les frais. L'affaire n'est pas pliée. Les rebelles sont une trentaine pour l'instant. Il en faut 54 pour déclencher un vote de défiance et ça peut traîner quelques jours ou semaines. Mais le processus semble enclenché.
Alors Jean-Marc l'a dit, Boris Johnson, il n'est pas coulé, il se bat.
Oui, comme un beau diable, charismatique comme il sait l'être. Et avec une tactique très populiste là aussi. Il détourne l'attention en caressant les électeurs dans le sens du poil et en promettant en gros de raser gratis. Donc Boris Johnson a annoncé tout à l'heure, par anticipation, une levée des restrictions anti-Covid dès le milieu de la semaine prochaine, fin du masque obligatoire, fin du télétravail, fin du contrôle du pass sanitaire. Et auparavant, il avait dégainé d'autres annonces démagogiques. L'hypothèse d'une suppression de la redevance audiovisuelle ou d'une intervention de l'armée pour refouler les migrants dans la Manche. Et puis bien sûr, il continue d'affirmer que le Brexit est un succès. Alors que les échanges commerciaux diminuent, que la productivité baisse et que l'inflation flambe au plus haut depuis 30 ans, en partie en raison de problèmes d'approvisionnement, conséquence directe du Brexit. Et là, on touche à l'essentiel. Plus que ces contradictions sur les fêtes à Downing Street, ces mensonges politiques de fond sont lourds de conséquences. La réalité, c'est que Boris Johnson a pendant un an mal géré la pandémie, avec un bilan humain très lourd, et qu'il a, sur le Brexit, raconté à peu près n'importe quoi, en reniant au passage le traité qu'il avait lui-même signé. Autrement dit, même si Pinocchio finit par sauter pour ses bobards sur les fiestas alcoolisées, il laissera un héritage politique encombrant. Le mal est fait.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Merci beaucoup. Jean-Marc, tous les soirs, bien sûr, dans Un jour dans le monde. Pour nous, ça continue le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Et puis, le téléphone sonne. Bonne soirée avec nous.